France Bleu, un réseau du groupe Radio France.
France Inter. La voix est libre.
15h et bientôt 4 minutes, l'heure de retrouver Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Pour punir Poutine, la France va demander le rapatriement de Gérard Depardieu.
Et pendant que l'Europe a les yeux tournés vers l'Ukraine et sur ce que va faire Vladimir Poutine, eh bien, en Grèce, on commence vraiment à crever de faim.
Le duende, le flamenco le trouve au fond de l'âme d'un musicien. Parfois, il guide la main du torero et le monde se réconcilie. Faudrait qu'un magicien confectionne des ampoules de duende, voyez, comme les fortifs de notre enfance. Imaginez Poutine touché par le duende, Barack touché par le duende, Hollande touché par le duende, et même Angela touché par le duende. Oh, mais le monde irait mieux. Merci à Paco de Lucia d'avoir donné du bonheur à l'humain. C'était Bernard Rodriguez, Marseille.
Dans la série Une surprise par jour, une déception par 24 heures, José Bové était l'invité de Éric Nolot et Éric Zemmour sur Paris Première la semaine dernière. Et là, il invoque une raison pour laquelle il est contre les OGM. Je suis moi-même contre les OGM. Il invoque une raison un peu bizarre, à savoir la non-intervention de la science dans le vivant. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que pour cette même raison, il met sur le même plan les OGM et la PMA. Donc José Bové est contre la PMA, qui est un progrès quand même fantastique pour tous les couples qui ont des problèmes pour enfanter, sur le même plan que les OGM, qui sont des trucs dangereux et jusqu'à preuve du contraire, inutiles. Hier, dans la matinale, Daniel Cohn-Bendit a reproché violemment à Jean-Luc Mélenchon de n'avoir pas changé. C'est sûr que c'est un reproche qu'on ne peut pas faire à Dany le Rouge, qui est depuis longtemps devenu Dany le Rose Pâle. On rajoute à ça Cécile Duflot qui avale des couleuvres par camion entier. Plus ça va, moins j'ai envie d'être écolo.
Allô Daniel, bonjour. Je viens d'écouter l'émission là sur Samsonite, c'était formidable, heureusement que t'es là. Il y a encore des journalistes comme toi et du coup ça m'a décidé, ça faisait un moment que j'y pensais mais j'avais pas encore trouvé le temps. J'aurais envoyé un chèque aujourd'hui en espérant qu'il sera pas trop tard. En tout cas merci pour tes émissions et continue à résister à tout ce monde médiatique qui est quand même largement gangréné. Merci et à la prochaine. C'était Hugues de Lyon dans le 89. Au revoir.
Allô?
Allô Brigitte?
Oui, salut Anaëlle.
Comment ça va?
Ça va.
Vous êtes bien arrivée? Vous êtes aux États-Unis, Boston?
Oui. Je crois que ce soir, la pression, elle va retomber, quoi. On est dans le taxi, là, on s'en va.
À l'audience?
Oui, on s'en va à l'audience, là. Bon, alors, ça y est, Anaëlle, je suis sortie du taxi, là.
Bon, allez, courage.
Allez.
Salut Brigitte.
Salut. Salut Daniel, salut Antoine, je suis Monia, syndicaliste de Eswala Telec, Fouchana, Tunis. Je veux vous informer, à travers votre émission Là-bas si j'y suis, que nous avons gagné hier, le 4 mars 2014, à réintégrer 6 licenciés, y compris un délégué syndical, c'est Rimes Boy. Ça, c'est grâce à une solidarité internationale et notre lutte ne va pas s'arrêter jusqu'à avoir la réintégration de tous les licenciés. Merci à vous, merci à toutes personnes qui nous a soutenus et nous avons besoin d'une solidarité pour la réintégration des autres filles. Merci.
Voilà, des bonnes nouvelles quand même. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est pas mal, hein. Les Tunisiennes, vous vous souvenez, Monia, Sonia, Malek, Rachida. Alors celle-là, ben, c'est moins bien pour elles parce que pour l'instant, elles ne sont pas réintégrées, mais les autres le sont, réintégrées donc par la Telec. Vous vous souvenez cette histoire, cette entreprise française implantée en Tunisie qui avait mis un petit peu ses personnes, ses personnels à la porte. Elle lutte avec acharnement, avec entêtement, et finalement, voilà, il y en a un certain nombre qui ont été réintégrés. C'est une victoire. Et les autres, celles qui restent encore à la porte, ont de sérieux espoirs d'être à leur tour réintégrés. Voilà, on perd pas toujours. Et puis, vous avez entendu, on a des nouvelles aussi de nos Samsonites. Les salariés licenciés, elles aussi, par Samsonite, qui sont arrivés à Boston. Et là, on les avait tout à l'heure. elles entraient dans le tribunal à Boston dans l'espoir d'obtenir justice contre le fonds d'investissement Bain Capital. Aujourd'hui, on va se tourner vers l'Ukraine. L'Ukraine, on va se tourner exactement vers Kiev, ou juste à côté de Kiev, et on est en 1993, il y a 20 ans. 20 ans, on y était, à Kiev, à côté de Kiev, au sujet d'un, on pourrait dire un trou de mémoire. C'est un ravin à côté de Kiev qui s'appelle Babillar, le ravin de la bonne femme. Et c'est là que, en l'espace de 2 jours, les 29 et 30 septembre 1941, plus de 34 000 personnes juives furent fusillées par les nazis. On appelle ça aujourd'hui la Shoah par balle. Et en 1993, avec Zoé Varier, nous avions rencontré des survivants de cette tuerie. 93, c'était peu de temps après l'implosion de l'URSS, et la mémoire commençait à se manifester. C'était quelque chose qui était un peu passé sous le tapis, cette histoire, à côté de millions de morts de cette Deuxième Guerre mondiale, à côté de la fameuse famine de 1933. Ça semblait quelque chose d'un peu secondaire. Et puis on a commencé à prendre à cette époque la mesure de ce crime. Pourquoi évoquer ça aujourd'hui? Pourquoi évoquer l'histoire de l'Ukraine? En tous les cas, cette histoire-là, cette page de l'histoire de l'Ukraine, c'est que, à travers ce qui se passe en ce moment en Ukraine, sous la surface de ces événements, il y a une mémoire particulièrement tragique de ce pays. La famine que j'évoque, les morts de la Deuxième Guerre mondiale, ces massacres de juifs et d'autres, de tziganes, de toutes sortes de crimes terribles qui sont toujours là, qui sont toujours dans les mémoires et qui se transmettent et qui expliquent en partie, qui peuvent faire comprendre ce qui se passe actuellement dans ce pays. C'est pas seulement une histoire de rejoindre ou non l'Europe. C'est pas seulement une histoire du grand méchant Poutine qui, avec une moustache de plus, ressemblerait à Staline. C'est une histoire très profonde et qui, d'une certaine façon, nous concerne, parce que tout ça, c'est très proche de nous et ça remue aussi dans nos mémoires. Voilà pourquoi aujourd'hui nous revenons sur ces témoignages recueillis à l'époque, en 1993, à Kiev, au sujet de Babillar, un trou de mémoire. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Le Café Repère de Paris 14, c'est dimanche prochain, 9 mars. Ce mois-ci, nous débattrons sur le thème « Quelle source pour s'informer ?» entre surinformation et désinformation. Nous proposons de discuter sur notre manière de prendre connaissance du monde qui nous entoure dans la multitude de sources qui nous est offerte aujourd'hui. Comment décrypter ces informations à la fois dans l'immédiateté et la quantité? Il s'agit de confronter nos comportements dans la recherche de l'actualité, qu'elle soit politique, culturelle, divertissante ou pratique. Pour en discuter, venez nous rejoindre au café Le Magique, 42 rue de Gergovie, Paris 14, métro Pernetti, à 20h15. À dimanche.
Bonjour. Le prochain repère d'Aix-en-Provence aura lieu ce jeudi 6 mars à 19h30 au restaurant Les Cousins, situé au 40 avenue Robert Schumann, face à la Fac de Lettres. Sandrine Catoire, qui a créé en 2004 l'entreprise Mater, nous expliquera comment la passion d'une femme a créé une entreprise militante qui permet à ses clients de participer à une œuvre collective sur le territoire par le biais de son alimentation. Alors, retrouvons-nous ce jeudi 6 mars à 19h30 au restaurant Les Cousins, face à la Fac de Lettres d'Aix-en-Provence. Bonne journée à tous.
Bon, ben merci pour lui. Je veux dire, pour nous, Garou. Dans un sens, et ça m'a plu que vous repassiez le message d'il y a 10 ans. Ça renvoie à une époque, quoi. Quant à mon texte que j'ai laissé ce matin, là, en fait, il était truffé de références à des chansons de Nougaro seulement. Il fallait les connaître, quoi. Quand j'ai dit « tu avais plongé dans la mort comme tu avais plongé dans la vie », c'était une référence à Splaush. Bon, je ne vais pas les citer toutes. Il y avait celle, bien sûr, au centre du désert, la chevelure d'idées. Sur les tempêtes, les noms, je crois que ce sont les noms de ses filles, Cécile, Fanny, Théa. Je ne sais pas si j'en ai peut-être oublié. Référence à « le fond de l'océan est pollué et je crains que tu n'aies rencontré aucune étoile de mer en bonne santé ». Pour te faire général, c'est une référence à une chanson qui s'appelle « Armée d'amour », où Nougaro dit « une étoile de mer me fera général ». T'as-t-on tendu la main sur un rivage d'île en te disant « c'est toi », on t'attend des fistons, c'est la fin de Splaush. Tu verras ceux qu'on croyait décédés de reprendre cher. Ça, c'est bien entendu. Ah, tu verras, tu verras. Et puis, il y avait un clin d'œil, évidemment, à l'affiche rouge, disant que cela passait vite, disant, et que le cœur me fend. Et la lenteur de l'espoir, c'est une allusion à Ben Saïd. Voilà. Bon, ben, voilà toutes les clés du texte.
J'aime beaucoup le mot cucurbitacé.
Salut, c'est Daniel Mermès, là-bas si j'y suis avec Zoé Varier. Ukraine, Babi Yar, un trou de mémoire.
Flight number 2, arriving from New York.
Что вам это гонцарет?
Не.
А что
вам? Золзай.
А?
Золзай.
Est-ce qu'il y a des Juifs aussi chez vous en France? Voilà la première question que nous a posée Jacob Abramovitch Kapper, 82 ans, dans son appartement de l'ancienne avenue Staline à Kiev, capitale de l'Ukraine. Oui, on a dit, oui, monsieur Kapper, il y a des Juifs en France. Alors, avec l'aide de sa femme, à ces Juifs et à tous, monsieur Kapper a tenu à adresser ce message dans sa langue, le yiddish.
Shalom, teire Jiden von Franzie. Ich schickach a Gris von Kiew. Ich wünschach gesund und Glück. Soll sein Schulem auf der ganzen Welt. Ihr bin a jedes übergelebt die Tragödie von Babi Yar. Mir seinen erfeindlichen Tug geblieben drei Menschen. Ich, Jakob Kapper, David Budnik, Zachar Trubakov. Seid gesund.
On n'a pas oublié. On a fait pas mal de reportages dans la base, j'y suis depuis 25 ans, mais ça, on n'a pas oublié les personnes que vous allez entendre ou réentendre aujourd'hui. Jacob Kapper et Rebecca Schwarzmann. Et on les a pas oubliés. Je les revois comme je vous vois. Ouais. C'est-à-dire que mieux que vu. C'est-à-dire senti, ressenti, présent, présent, infiniment présent. Il nous racontait des histoires dont on n'avait pas une idée très claire, vaguement, comme ça, un dossier de presse, des massacres, le judéocide par balle. Je crois pas qu'on disait déjà Shoah par balle, c'est possible. Et puis voilà, on les a écoutés. Rebecca et Jacob. Je revois exactement l'appartement de Rebecca. L'après-midi, du soleil un peu oblique qui rentrait dans son appartement. Et cette femme très vivante, jubilante, débordante. Et puis en entrant dans la pièce, dans l'appartement, une pièce à gauche dans laquelle il y avait un homme d'une cinquantaine d'années, un grand homme de grande taille comme ça qui était en train de donner des graines à un oiseau dans une cage et qui nous a salués comme ça un peu renfrogné, timide ou peu accueillant en tout cas. Et par contre, elle était débordante d'accueil, chaleureuse. Et elle nous a raconté son histoire. Je situe ces deux personnes pour ce que je dirai ensuite, à la fin du témoignage de Rebecca qu'on va réentendre. À l'époque, je ne sais pas si on avait une claire conscience de l'histoire de l'Ukraine autour de nous. Holodomor, par exemple, cette famine de 1933 qui était provoquée par la collectivisation des terres et qui fit 8 millions de morts en Ukraine et dans d'autres régions du RSS. Ce contentieux énorme, formidable des Ukrainiens, de beaucoup d'Ukrainiens vis-à-vis de l'URSS, vis-à-vis de Staline, donc, puisque cette famine lui était attribuée. Pour beaucoup d'Ukrainiens, c'est lui qui l'avait organisée, il en était la cause. Et donc, lorsque l'armée allemande, la Wehrmacht, arrive à Kiev, une partie des Ukrainiens les accueille à bras ouverts. Et un certain nombre d'entre eux collaboreront militairement avec l'occupant nazi. Et puis il y a cet épisode incroyable, comment lorsque la Wehrmacht prend Kiev, comment les soviétiques avaient miné entièrement la ville, avaient mis des explosifs partout dans la ville, et lorsque les Allemands prennent place dans cette ville, dans les différents bâtiments administratifs, représentatifs de la ville, eh bien tout se met à sauter, toute la ville prend feu, littéralement. Et des milliers de militaires allemands périront dans cette ruse de guerre. Tout ça, ça laisse des traces dont les Juifs furent les victimes. On s'est vengé sur les Juifs. Il y avait deux raisons à cela, vous les connaissez. Les arguments, entre guillemets, étaient que c'était la plutocratie juive qui était responsable de tout. Et puis, il y avait aussi les Juifs, c'était les judéo-bolcheviques. Les bolcheviques, c'était eux. Ça faisait deux raisons, si on peut appeler ça des raisons, de faire ce qui s'est fait là, dans ce vallon des bonnes femmes à Babi Yar, en l'espace de deux jours, 29 et 30 septembre 1941. La totalité de la population juive de Kiev a été exterminée par les nazis. Et ça a continué durant les deux années d'occupation qui ont suivi. Ça a été le tour des tziganes, des malades mentaux, des partisans, des communistes, des homosexuels et de tous ceux qui, à Kiev, résistèrent aux nazis. Ça, ce sera le témoignage de Jacob Kapper en 1943. Il nous racontera ce qu'il a vu à cette époque-là. La voix de cet homme qu'on va entendre était celle d'un homme qui, à l'époque, il y a 20 ans, avait 82 ans. Voilà où nous allons, dans l'espoir que cette contribution, ce ne sont que des témoignages, c'est vrai, mais c'est le moyen d'entrer probablement dans l'histoire et d'avoir envie de, par ce moyen sensible, d'en savoir plus et de comprendre mieux et plus clairement les enjeux d'aujourd'hui dans cette Ukraine en proie à des passions déchirantes. C'est jusqu'à 16h, c'est la Bassigisson.
Stark gebrannt. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt. Halten a Speier in die Hand. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt. Speyer in der Hand.
C'est quoi ça, cette photo, cette petite photo?
Ah, это что за фотография?
Это я.
Ça, c'est moi.
А это Славик.
Et ça, c'est Славик, mon fils.
Сын.
Mon fils à moi.
Да. Это ж немец нас, вот прочти. Можешь почитать? Благодарим и не забудем до конца жизни молодого немецкого солдата за спасение меня и маленького сына с Бабиного Яра. 1941 год, 29 сентября.
Nous remercions et nous n'oublierons jamais et jusqu'à la fin de notre vie, nous nous rappellerons de ce soldat allemand jeune qui nous a sauvés, mon fils et moi, quand nous allions vers Babi Yar. Cela s'est passé le 29 septembre 1941 à 10h le matin.
C'est un petit appart confortable de Kiev. Et là, il y a Rebecca et Slavik. Rebecca, c'est la maman. Slavik, c'est le fils.
Vous ne l'avez pas encore vu, ce livre sur Babi Yar?
La Shoah de Babi Yar.
Да, это мне подарил профессор.
Die Shoah von Babi Yar.
Вот это вот, вот это вот. Я ж не знала, что вы.
Israël. Autocollant.
Ну это же вы.
Это что, это не?
Это Babi Yar. Это убийцы.
Ça, ce sont les morts de Babi Yar.
Et comment ils sont morts?
Как умели стреляли?
On les a fusillés.
Non, раздевали.
Là, sur la photo, on voit comment on nous a déshabillés, comment regardez tous ces hommes nus.
Да. Это ж все такое вот.
C'était я хотела comme ça, ça s'est passé comme ça.
Это такие, ну это вот эти же наши, эти немцы, которые убивали, главари нас.
Regardez, regardez, это ça здесь? C'est les Allemands. Вот c'est les Allemands.
Тут надо их.
C'est ceux qui nous ont tués.
Видишь, я читать не могу по-немецки.
Je sais pas lire en allemand, alors j'ai...
Вот
j'ai
это уже, где, по-моему, это Нюрнбергский процесс,
ça,
по-моему.
Ça, je pense que c'est le procès de Nuremberg.
Вот этот, вот этот, вот этот.
Lui, lui, lui.
Он вот это руководил, вот это он, чтобы убивать на Бабе Миру.
C'est lui, c'est lui qui a pris la décision de tuer les gens à Babi Yar, c'est lui.
А, книга такая, ого.
Vous savez, c'est un livre, hein.
Тут есть, что почитать.
Il y a de quoi lire dedans.
Never to be forgotten.
Вот, сестра. Мама.
Regardez, ça c'est ma mère. Ça c'est ma sœur.
Это память, книжку, вот теперь недавно мне
ça,
дали.
Ça, c'est le livre de la mémoire. Ça fait pas très longtemps qu'on
это
l'a donné.
Это теперь дали. Вот сколько деток, вот все
вместе. Regardez, regardez, là, tous les petits-enfants.
Вот Шварцманы, вот это мои все.
Voilà, les Schwarzmann, да. C'est tous les miens. Moi, j'ai pleuré toute ma vie à
сколько
cause de ça.
Сколько лет я плачу, 41-го года?
Depuis combien de temps? Depuis 1941, ça fait combien d'années hein,
et que ничего, je pleure? Я не выплакала.
Et j'ai pas fini de pleurer.
Вот так спускались вниз.
On descendait sur un petit chemin très étroit au fond de la fosse, au fond du ravin.
А вокруг танки. Вот такое узенько было. Сюда зайди, а обратно уже все.
Il y avait des tanks autour de la fosse et c'était pas possible de faire demi-tour. Une fois que vous aviez commencé à avancer dans la fosse, dans le ravin, on pouvait plus faire demi-tour.
А сверху сидели полицаи или кто там ихний
зондрик
и считали, сколько людей прошло за один день.
Et au-dessus, il y avait les policiers au-dessus du ravin. Comptaient le nombre de personnes qui rentraient dans la fosse par jour.
Ну вот это ж когда загоняли уже вот, нас туда в это самое вниз в этот по тропинке.
On nous poussait à descendre dans la fosse.
В этот яр заставляли раздеваться.
Ils nous obligeaient à nous déshabiller. On était nus.
В сторону туфли, в сторону.
Il fallait mettre nos vêtements d'un côté.
Золото у кого что было.
Chaussures d'un autre côté.
Серьги все.
Il fallait mettre nos. В сторону. Tous nos objets de valeur. Encore.
И это все по.
À côté.
Да. Все там по кучкам. Порядок был.
Il fallait mettre les affaires des enfants à part, les affaires des hommes à part. Il fallait faire des tas.
А потом ближе подгоняли уже по несколько человек. Вот, стреляли, а потом следующие заводили.
On faisait un petit groupe de personnes, on les faisait avancer, descendre dans la fosse. On les fusillait et puis après on faisait revenir un autre groupe de personnes.
Они до темной ночи стреляли, до темной ночи.
Jusqu'à la nuit, ils fusillaient les gens.
Sich ruhig fließen, stiller sein und hoff. Mit der Freiheit kommt der Tat, schlafsche Kind, mein Schlaf. Wie die Wille aber freite, wie die Bäumer grün man neite, leicht bald Freiheit nicht auf dein Gesicht, auf dein Gesicht.
Вторая Дашкевич, она в Америку уехала.
Эльса, она... Elle est partie en Amérique, elle est partie aux États-Unis maintenant.
Она у Баби Яр пошла три-четыре сестры.
Elle
Мама.
A été à Баби Яр avec ses trois, quatre sœurs, avec sa mère. Elle a été jusqu'en bas, jusqu'en bas du ravin, jusqu'en bas de la fosse.
Ils все стреляли, она упала.
On les a tous fusillés, elle est tombée.
Маленький такой, как Славик, под животом, она придушила его. А ночью, когда она очнулась в рубашечке, она не разделась догола.
Она с потрупа вылезла.
И она поняла, что она жива, а ребенок был мертвый.
Alors, elle est descendue avec ses sœurs, avec sa mère. Elle était tout au fond de la fosse. Да. Et puis, on leur a tiré dessus, on les a fusillés. Elle est tombée et elle avait un bébé. Et pour protéger son bébé, elle est tombée sur son bébé. Et dans la nuit, да. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas morte. Elle a senti quelque chose et elle a regardé. Son bébé était mort, mais pas elle. Elle avait survécu. Да.
Et трупы были на ней.
Et elle avait des cadavres comme ça sur elle. Et elle a réussi à sortir.
Et жива осталась. Et люди её спасли.
Et elle est restée. Elle est restée vivante. Et puis il y a des gens qui l'ont sauvée.
Украинские люди.
Il y a des gens ukrainiens. Il y a des Ukrainiens qui l'ont sauvée.
Она уехала в Америку.
Et elle est partie aux États-Unis.
Детей у неё нету.
Elle a pas d'enfants.
Она осталась бездетная.
Elle est restée sans enfants après
cela. Это Дашкевич Рая. Дашкевич. Мы с ней сфотографировали там.
Elle s'appelle Raya Dashkevich.
Да, да, да. Стреляет Баби Яр, она с ребенком.
Regardez là. Là, vous avez un homme ou une femme. Un homme qui tient un enfant dans ses bras. Et derrière, vous avez un soldat allemand qui tire. Ils vont être fusillés.
Вы же такую книжку не видели.
Vous aviez vraiment pas vu ce livre-là?
О.
Regardez, regardez.
А вот мы.
Regardez, regardez les Allemands. Regardez, ils sont là, en rang. Et puis, nous, on est là.
Затылок.
Ils nous tiraient dans la nuque.
Да, стреляли в это место, в это место.
Là, au-dessus de la tête, dans la nuque.
Вот это, что уже убиты, а вот это ждали люди своей очереди.
Vous voyez, là, sur la photo du dessus, ce sont les gens qui sont déjà morts, les cadavres, les uns sur les autres. Et là, en dessous, c'est les gens qui attendent, juste avant d'être fusillés.
Ждали, пока на второй, третий день, сразу всех не могли убить.
Parce que, vous savez, on ne pouvait pas tuer tout le monde en même temps, donc on attendait, chacun attendait son tour pour être fusillé.
Люди ждали, люди ждали.
Les gens attendaient leur tour.
Вот, сидели.
Regardez, là,
ils étaient assis,
puis ils attendaient.
Да, вот это. Et вот это вот.
Regardez,
вот есть тут живые есть, да? Я не знаю, или это уже убиты, я уже не пойму тут. Но есть тут вот это живые, которые ждут.
Là, il y a des morts, et puis il y en a des vivants qui attendent leur tour.
Это которые ждут своей очереди, потому что убивали же несколько дней.
Parce qu'on a pendant plusieurs jours on a fusillé, on a tué les gens.
On pouvait pas
tuer autant de monde en aussi peu de temps. En d'un seul coup, c'était pas possible.
Так. И вот люди, вот это все люди, вот это все люди.
Tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez, c'est des gens.
А детей не стреляли, детей засыпали песком.
On ne tuait que les adultes à Баби Яр. Les enfants, on ne les tuait pas. Les enfants, on les jetait dans la fosse, on les jetait vivants dans le ravin, et après, on leur mettait de la terre dessus et on les laissait comme ça.
Да. А это уже старушка плачет, поняла, что уже убивали.
Vous voyez, là, c'est une vieille femme qui pleure et qui crie. Elle comprend qu'on va la tuer.
Schweigen, vor ihm wachsen da. Sonnensee verpflanzt die Sonne im grünen See zum Blau. Sphären wegen zu Pondor zu, Sphären weg zurück. Ist der Tate wo verschwunden und mit ihm das Glück. Stiller Kind, meins Bein, nicht äußer, selbst nicht kein Gewein. Unser Unglück will uns an ihm, es sei wie nicht verstehen. Soben bräg es euch die Jamen, soben euch et fieses zusammen. nur zu unser Pein kein bisschen Schein.
Kiev, Ukraine, on est dans l'appartement de Rebecca Schwarzmann et son fils est là, Slavik. Slavik, vous l'entendez de temps en temps, mais Slavik, le fils, ne parle pas. Il y a des hommes qui sont discrets, qui laissent parler leur mère, même quand ils ont la cinquantaine passée. Il y a aussi des hommes qui parlent moins, peut-être, ou peu, ou pas du tout, en présence de leur mère, lorsqu'ils ont eu une certaine nuit d'hiver, la voix coupée par un sein qui les étouffait.
En
ce qui me concerne, pour moi, ça s'est passé le 29
septembre 1941.
Toute ma famille s'était rassemblée dans une maison.
Tous les Schwarzmann s'étaient rassemblés.
Nous nous étions rassemblés, nous pleurions et nous ne savions pas où nous allions.
Все жиди города Києва і окресності, Дажні Явіця, 29 сентября, допустим, к 8 часам утра, угол Мельника і Драгожицької.
Il y avait des affiches partout dans la ville où on disait que tous les juifs devaient se rassembler le 29 septembre à l'angle de rue à partir de 8h du matin.
Il
fallait prendre avec soi des vêtements chauds.
Ценності.
Il fallait prendre avec soi les objets de valeur.
Il fallait prendre
ses passeports aussi avec soi.
Ценності, документи, тепла одежда. Ну, люди думали, що уїдуть.
Les gens pensaient qu'on allait les évacuer.
Окупировали город Київ немці. Ну, 19-го. 19-го. Вони ходили з собаками. І всі говорили, Юда, собаку направляли, щоб оборвати тіло чоловіку. Я ж 10 днів ще жила, мала право ходити по світу.
Les Allemands sont arrivés le 19 septembre 1941 dans la ville et pendant 10 jours, c'est 10 jours après qu'on a posé les affiches pour dire aux Juifs qu'ils devaient se rendre à Babi Yar. Mais moi, je me suis promenée dans la ville pendant ces 10 jours-là, avant qu'ils apposent les affiches. Et là, il y avait des miliciens partout dans la rue avec des chiens qui sautaient sur les gens, qui sautaient sur les Juifs, qui leur déchiraient leurs vêtements. J'ai vu tout ça.
Да, так было. А 10 дней прошло. Написана вот эта большая бумага.
И ensuite, ils ont posé ces affiches dans la
ville. Это было для отправки или для чего-то, но никто не знал куда.
Part, on savait qu'on allait aller quelque part, mais on savait pas où. Ils nous ont trompés, on ne savait pas où on allait, ce n'était pas inscrit.
Прощались с своими соседями.
Et on a fait nos adieux à nos voisins.
Да, одна нас проводила. Такие фамилия Тарадай.
Il y a même une de nos voisines qui nous a accompagnés.
Да, и мы шли на этот Бабий Яр туда.
Et alors nous sommes partis à pied vers Бабий Яр.
Много народу по Брестовскому шоссе, по Шулявке.
Il y avait beaucoup de monde sur la
Называется Шулявка. Да. И люди шли.
Et il y avait du monde.
Мешками.
Des gens qui étaient avec leurs valises, avec des paquets, des vieux.
Ехали немцы.
Et les Allemands, ils étaient là, ils avaient des фузеи.
Каратели назывались. Они все были на мотоциклах.
Et ils étaient tous sur des motocycles.
Расстреливать, ехали туда.
Et ces gens-là, ceux qui étaient sur les motocyclettes, ils allaient là-bas, à Бабий Яр, pour aller tuer, pour fusiller les autres.
Это, когда мы уже подошли, это было 10 часов утра. Туда, в самый прямо. А тут уже немцы по бокам, и так за руки взялись. И уже кто туда ближе попал, уже обратно.
Nous, on a avancé jusqu'à la dernière limite, jusqu'au dernier moment. On était arrivé au moment où il y avait des miliciens, des Allemands partout autour de nous, qui se donnaient la main comme ça pour nous entourer. Et là, quand on allait un tout petit peu plus loin que ça, on ne pouvait plus jamais revenir. Il était 10 heures du matin. Et puis, il y avait aussi des tanks.
Et quand je suis venu ici, уже обратно, если хотел человек убежать, испугался.
Et vous savez, les tanks,
обратно хода нету.
Plus les tanks étaient près de Бабий Яр, plus les tanks étaient près les uns des autres, comme ça, ce qui fait que on était obligé d'aller vers la fosse.
Да. А когда мы уже подошли ближе, и пулеметы сильно строчили, было сильно слышно. Мы уже поняли, что что-то не то, что-то не так.
Et puis on s'est approché, on s'est approché de cette fosse, et puis on entendait le bruit des balles, et puis on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, c'est pas ce qu'on nous a dit, c'est pas ça.
Да. Вот туда, туда. Толкали нас туда, туда, туда. И прикладами это шнель. Ну, быстрей.
Плювит.
Да, да. И вдруг немецкий парень, молодой, такой, как я.
И d'un coup, un jeune garçon allemand, 19, il devait avoir 19 ans, comme
moi. Красивый парень
blond,
такой.
Il était beau.
А мы же молодые сестрой, сестра красивая была,
Nous, on était,
высокая.
Avec ma soeur, on était belles, toutes les deux. Ma soeur aussi, elle était très belle, très grande.
Белые, голубые глаза.
Avait, mon fils, Slavik, dans mes bras, qui est tout blond, avec des grands yeux bleus. Et alors, ce soldat allemand nous a regardé.
Обратил внимание и проговорил. Юда, он не понял, или мы евреи.
Et alors l'allemand nous a regardé et a commencé à nous dire Юда.
Юда.
Il n'arrivait pas à savoir si nous étions juifs ou pas.
Я сказала, я пан. Я, правду, как есть.
Oui, moi j'ai répondu oui. Oui, j'ai répondu oui parce que je suis juif.
Сюрик, капут. Шойн кляйн кинд. Сюрик, капут. Шойн кляйн кинд. Чтоб мы удрали.
Et il m'a dit Zurück, kaputt, schön, klein Kind,
да.
Pour qu'on puisse partir, pour qu'on s'en aille.
Да. Я понимала, что такое капут. Мы за 10 дней поняли, капут это смерть.
Parce que vous comprenez, ça faisait déjà 10 jours que les Allemands étaient là et ça faisait déjà 10 jours qu'on voyait comment ils étaient. Et quand il a dit kaputt, j'ai да. Compris ce que ça voulait dire kaputt. C'était la mort.
Да. И сразу тут я поняла и вырвалась с ребенком, а все остались там.
Et alors, quand j'ai compris que c'était de ça qu'il s'agissait, je suis sortie de la file yeah. Et je suis partie et j'ai yeah. Laissé tous les autres.
Все, я забыла за своих родных, за всех.
J'ai oublié tous mes parents, j'ai oublié tous
я
mes
спасла
proches.
Его и сама.
J'ai sauvé lui, yeah. Je me suis sauvée, yeah. Moi, et je suis partie.
Выскочила, побежала Зоечка в кладбище, там было еврейское рядом кладбище.
Et je suis partie au cimetière juif.
И я там спряталась с ним. Он был тихий.
Et je me suis cachée là-bas.
И еще грудь, вот это кушать.
Il a vécu да. 6 mois, il prenait encore да. Le sein, il buvait encore
да.
Mon lait.
Кормила. Было такое.
J'étais comme да. Ça, alors да. Je lui donnais
Молодая,
à manger dans
да.
Ce cimetière juif, j'étais jeune.
И мы с ним всю ночь просидели там, в этом
Et toute la nuit, on est resté là, dans le cimetière juif.
Так я уже слышала, как разговор по-немецки, уже ходят. И я тихонько оттуда...
Et quand j'ai entendu que les voix s'apaisaient, qu'on entendait de moins en moins de bruit, on ne pouvait pas sortir à n'importe quel moment comme ça du cimetière, il fallait qu'on fasse attention à nous. Alors, j'ai décidé de partir avec mon fils, de sortir du cimetière. Ce qui nous a sauvés, c'est mon sein, parce que je lui ai donné le sein et il n'a pas crié.
Témoignage de Rebecca Schwartzmann. C'était, je le rappelle, en 1993 à Kiev. Elle nous avait confié ce témoignage. Et après qu'on ait pris le thé, elle nous a demandé si on avait les moyens de diffuser des messages sur la radio, sur les radios allemandes. Alors on a dit oh, on peut peut-être essayer, mais pourquoi donc? Ah, parce que peut-être que ce soldat allemand là qui m'avait aidé. Peut-être qu'il est encore vivant, peut-être que... Elle rigolait, peut-être qu'il est disponible. Alors, on espère que Rebecca a trouvé le bonheur, en tout cas. Et il faut se savoir que ça ne s'est pas limité à ces deux journées de septembre 1941, avec ces 34 000 personnes qui ont été tuées. Durant les années qui ont suivi, avant que l'armée rouge ne reprenne Kiev, Babi Yar a continué d'être le lieu d'un massacre obstiné de la part des nazis. Près de 140 000 personnes de nationalités variées ont été abattues là à la mitrailleuse ou enterrées vivantes, des juifs, des polonais, des tziganes, des opposants aux nazis, des malades mentaux, des prisonniers de guerre. Et de façon générale, tous les habitants de Kiev que le hasard des rafles ou les dénonciations destinaient à une disparition sans trace et sans mémoire. Et avant leur retraite, les nazis se sont hâtés de brûler les cadavres et de disperser leurs cendres avant le retour de l'armée rouge, afin évidemment d'anéantir la trace et la sépulture de ces hommes-là. Et Jakob Kapper, qu'on retrouve à l'instant, a fait partie de ceux qui ont été convoqués pour cette disparition.
J'avais 28-29
ans.
D'abord, moi, j'ai été en camp comme prisonnier de guerre.
Вели на расстрел евреев в Киеве, так и я находился в лагере.
Quand on a tué les Juifs à Kiev, moi j'étais en camp.
А после того, как узнали, что я еврей, меня перевели, было устроено такой лагерь, вроде гетто.
Ensuite, quand ils ont compris que moi j'étais juif, ils m'ont mis dans un ghetto. Il y a eu comme un ghetto ici à Kiev.
Ну потом они устроили здесь, называется концлагерь.
Et ensuite, il y a eu ici à Kiev un camp de concentration.
Там были русские, украинцы, немцы, кто попалось, да.
Non, il y avait des Russes, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Allemands. Toutes les nationalités étaient là.
Одна землянка была жидовская, называлась.
Il y avait une partie du camp qui était pour les Juifs.
А в 43-м году они этот советский концлагерь отправили в Германию.
En 1943, ils ont décidé d'évacuer le camp de concentration dans lequel je me trouvais. Ils ont fait partir la plupart des hommes en Allemagne, mais les Juifs sont restés là et on les a envoyés pour nettoyer Babi Yar.
Il n'y avait que des Juifs pour nettoyer Babi Yar.
Там была команда 327 человек.
On était 327 pour le nettoyage de la fosse.
Там в основном были русские, украинцы, осуждённые на смерть. И нас присоединили к этой.
La plupart d'entre eux étaient des Russes et des Ukrainiens qui étaient condamnés à mort, et nous, on nous a mis avec eux.
Когда нас привели в Бабий Яр, и я увидел эту картину, я начал кричать: «Больше я не хочу жить! Расстреляйте меня!»
Quand je suis arrivée à Babi Yar et quand j'ai vu ce que c'était que Babi Yar, j'ai crié et j'ai dit « Fusillez-moi, je ne veux plus vivre ». Et au moment où j'ai crié ça, il y a un Allemand qui m'a foncé dessus et qui m'a donné un grand coup dans la mâchoire et il m'a décroché la mâchoire.
Nous, il... Так окровавленный, и дали мне лопаты, и я пошел и начал копать яр.
Alors, j'avais la bouche en sang, ils m'ont donné une pelle et j'ai commencé à creuser.
И вытаскивать эти трупы.
Et à sortir ces cadavres.
И сжигали их.
Et à les brûler.
Les autres hommes?
Инструменты, видали? И все взяли за это дело, потому что...
Tout le monde a fait la même chose, tout le monde a pris sa pelle et tout le monde a creusé.
Заставляли это делать.
Parce qu'on nous forçait à faire ça, on était obligés de le faire.
На каждый пять человек был немец с автоматом, собакой.
Tous les cinq hommes, il y avait un Allemand avec un fusil et un chien.
Этого немца стояла бутылка водки, потому что там запах от горелого мяса невозможно было там... выдерживать, и он каждый раз гуль-гуль немножко.
Et l'Allemand, il avait une bouteille de vodka devant lui, parce que l'odeur de cette viande qui brûlait était insupportable, et sans arrêt, il prenait des goulets comme ça de vodka.
Les 327 hommes ont tenu. Il n'y a pas eu de rébellion.
О чем вы говорите? Как это можно было там вообще говорить?
Comment vous pouvez dire une chose pareille? Comment vous pouvez même penser que ce soit possible une chose pareille?
Над нами так издевались, что мы не могли что-то сказать, слово.
Ils étaient tellement sur nous, ils étaient tellement en train de nous épier sans arrêt qu'on ne pouvait même pas dire un mot, on ne pouvait rien faire.
куточок, заховався в куточок, заховався в куточок, й одма лисеньких діток.
Я лично, и еще там другие, я вытаскивал эти трупы.
Moi, mon travail à moi, c'était de sortir les cadavres.
И потом таскал эти самые трупы, таскали недалеко, там устроили печи.
Et je devais les traîner comme ça jusqu'au four qu'on avait fait.
Некоторые снимали одежду.
Et il y avait des brigades, si vous voulez. Certains enlevaient les habits des cadavres.
Некоторые вырывали золотые зубы.
D'autres arrachaient les dents en or sur les cadavres.
Некоторые копали, копали яр. Некоторые вытаскивали трупы. Это было разделение.
Certains creusaient, d'autres tiraient les cadavres.
А так мы работали до 29 сентября 43 года.
Et c'est comme ça que nous avons travaillé jusqu'au 29 septembre 1943.
Il y avait combien de fours?
60 печек мы построили.
Nous avons construit 60 fours.
C'est vous qui avez construit les fours?
Да, мы строили эти печи.
C'est nous qui avons construit ces fours.
Мы снимали памятники с еврейской кладбища. На эти камни, вот эти вот решетки. А на решетки положили дрова, а потом трупы выкладывали несколько рядов, а потом обливали их керосином, бензином. И потом опять, значит, ложили дрова, и опять, значит, трупы.
C'est nous-mêmes qui avons construit les fours. On a été prendre des bouts de monuments dans le cimetière juif, des plaques. Nous les avons posées par terre. Nous avons mis du métal dessus. Ensuite, nous mettions une grille. Ensuite, on mettait du bois. Ensuite, on mettait une rangée de cadavres. Ensuite, on mettait du bois. Et ensuite, on mettait encore une rangée de cadavres et on versait du kérosène sur les cadavres pour qu'ils brûlent plus vite.
Comment vous avez fait pour ne pas devenir fous, les uns et les autres?
Il
y en a beaucoup qui sont devenus fous.
Mais pendant le travail?
Oui, pendant le travail.
Mais quand ils ont presque fini le travail, ils nous ont dit... Ви кончаєте тут роботу, ми переїжджаємо в Житомир, Львов. Вони нас обманували. Потім вони нас заставили зробити останні печки для себе.
Nous avait dit qu'une fois qu'on aurait terminé notre travail, on irait à Житомир, on irait à Львов, on irait avec eux. Mais c'était pas vrai, ils nous ont menti parce qu'ils nous ont demandé de construire un dernier four. C'était un four qui était pour nous.
І ми зробили останні печки для себе, но не Но они не успели нас расстрелять, потому что они ждали какая-то сверху начальство большие должны были присутствовать и решили, что они на завтра это сделают утром.
On a donc construit un dernier four qui était pour nous, pour brûler nos propres corps. Et le jour où ils devaient nous fusiller, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils attendaient des supérieurs de la commandanture qui ne sont pas arrivés, donc ils ont décidé de reporter notre exécution au lendemain.
Nous, et мы потом уже узнали о том, что утром должны нас расстрелять.
Le matin, on a appris qu'on allait être fusillé.
Как я, все бежали.
Nous nous sommes tous enfuis.
А сейчас осталось только трое.
Et aujourd'hui, il n'en reste plus que trois qui sont vivants.
Еще один есть тут будник. Один Трубаков находится в Израиле.
Il reste Будник et Трубаков qui vit en Israël aujourd'hui.
И я.
Et moi.
Voilà, Jacob Klapper, 82 ans en 1993, qui témoignait sur ce qui s'est passé à Babi Yar. Babi Yar, un trou de mémoire. Aujourd'hui, cet épisode de l'histoire ukrainienne est beaucoup plus connu et donne lieu à des célébrations, mais reste un enjeu très très important et qui est en rapport avec ce qui se passe
aujourd'hui en Ukraine. Elle fait partie de ce qui est en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire cette mémoire tragique de ce pays qui se déchire. Merci à Zoé Varier, merci à Jacob Kapper et Rebecca Schwarzmann et à son fils Slavik, à lire Des hommes ordinaires, le livre fameux de Christopher Browning aux éditions Les Belles Lettres. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur là-bas.org, la-bas.org, et puis aller faire un tour sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. Julien Dumont et Fabrice Desmaz étaient à la technique aujourd'hui. Jérôme Chélius et Franck Aderer ont réalisé cette émission préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Pour l'instant, je vous laisse avec Hervé Pochon et son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous avez un beau gilet blanc.
C'est vrai?
Ouais.
Ouais. Ah ouais.
Non, vous dites ah ouais?
Comme ça? Je regarde à qui je parle.
Vous regardez le micro, vous avez marqué France Inter?
Ouais.
Et alors?
Bah rien. C'est bien. Non, donc là, on fait un concours du meilleur technicien de France.
Mais vous êtes candidat, vous?
Ah non, moi, je suis jury.
Ah, vous avez été champion de France, vous, pour pouvoir juger les autres, là? Vous avez un CV, un petit peu?
Oui, ben moi, je l'ai fait en 2004 et j'ai fini premier France et deuxième monde.
Excusez-moi, quel est votre nom?
Laurent Beguéo.
Vous êtes champion de France 2004 de changement de pare-brise?
Oui. Et vice-champion du monde.
Et vice-champion du monde?
Et oui.
Non, mais personne ne le sait, c'est quand même incroyable. Heureusement que je suis là, quand même.
Ben voilà, vous avez bien fait de venir. Personne ne me reconnaît.
Bonjour à tous et bienvenue à Courbevoie, en banlieue parisienne, pour les championnats de France de remplacement de pare-brise. Et oui, ça existe. Il était normal que France Inter soit là, il me semble, non?
Oui, si vous le dites.
Je peux faire une photo?
Une photo?
Oui.
Si vous voulez.
Vous allez enfin avoir la reconnaissance que vous méritez. C'est la première fois que ça existe, un tel concours?
Ah non, non, ça existe depuis longtemps. C'est tous les deux ans.
Un changement de pare-brise, c'est celui qui va le plus vite?
Bah, y a pas que la rapidité qui compte, il y a également la technicité, le respect des process et la qualité de travail.
Et ça fait combien de temps que vous changez les pare-brises?
Depuis septembre 2002. Mais bon, ça fait 6 ans que je suis formateur technique.
J'imagine qu'une fois que vous avez été vice-champion du monde, là, vous avez changé de statut, quoi.
Bah oui, j'ai été technicien à la base, donc après on m'a proposé un poste de chef de centre. Et puis donc ça fait 6 ans que je suis formateur maintenant.
Et là, vous faites quoi dehors? Vous fumez votre cigarette?
Bah là, j'ai fumé ma cigarette parce que c'est la pause, et puis je vais y retourner parce qu'il y a l'épreuve surprise maintenant.
Ah, je peux vous accompagner?
Ah bah, si vous voulez.
C'est quoi l'épreuve surprise?
Ah, je sais pas si j'ai le droit de le dire.
Non, mais là,
parce qu'il faut que ça reste une surprise.
Ah oui, mais nous, on est entre nous.
Donc, on va leur faire faire un cordon de colle, mais les yeux bandés. Mais ça reste une surprise.
Évidemment. Un cordon de colle autour du pare-brise, les yeux bandés.
Oui.
Il y a combien de candidats?
10. 10 candidats.
C'est pas énorme.
Oui, mais il y a déjà une grosse sélection avant.
Ah oui.
Ouais.
Et les championnats du monde, ils vont avoir lieu où?
À Rome.
Bon, ben Laurent, je vous remercie.
Enchantée.
Vous êtes qui?
Je suis Guillemette Simon, du service communication.
Ah, d'accord.
Voilà, donc...
C'est vous qui communiquez sur les championnats de France des remplaçants de pare-brise?
Absolument, pour l'épreuve nationale de la France. Voilà.
Ah, bah, super. Alors là, je peux parler, il y a deux candidats à côté de vous. Mais pourquoi vous n'avez pas le petit blouson blanc comme les autres?
Parce qu'ils sont en mi-temps, là. Ils viennent juste de terminer une épreuve, donc voilà.
Je suis en sueur et je suis parti fumer une petite cigarette.
Donc là, vous avez mis un survêtement.
Pour éviter d'avoir froid, en gros.
Comme les athlètes aux Jeux Olympiques.
C'est ce qu'il faut faire, pour éviter le chaud-froid.
Je parle votre prénom?
Romain. C'est mon premier championnat de France, ouais.
Bon. Comment s'est passée la première épreuve?
Pour moi, je reste positif. Pour moi, c'est très très bien passé. Là, l'épreuve de la lunette ce matin, un peu moins. Un peu moins.
Ah.
Voilà.
Pourquoi?
Bah, lors de la dé, on est en situation atelier sur une garantie, une lunette qui a été posée et qui fuit. On a dû la déposer avec l'outil qu'on utilise pour le pare-brise, et ma corde en fait a cassé 3 fois.
Ah oui.
Donc voilà le problème.
Et alors, c'est la faute à qui si la corde casse?
La faute à pas de chance, on va dire.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans votre métier?
Le relationnel client et être un support technique pour tous mes techniciens. Parce qu'en plus, je suis référent technique sur la glace latérale, sur la région Nord.
Ah oui, donc, référent technique sur la glace latérale.
Voilà. Donc tous les jeunes ont une formation avec des formateurs du siège. Ouais. Et en fait, quand ils arrivent en région, ils passent avec moi pendant une petite semaine pour apprendre à faire de la glace latérale.
D'accord. Et ça fait combien de temps que vous faites ce métier ?
14 ans.
14. Vous préférez travailler dans une grosse structure que je ne vais pas nommer parce qu'on est dans le service public,
oui,
que avoir votre petit garage à vous et faire votre remplacement de pare-brise ?
Non, parce que dans un garage tout seul, travailler tout seul toute une journée, moi j'aime bien apprendre aux autres mon savoir.
La pause est terminée. Hein.
Voilà, c'est pour ça que ça me plaît.
Bonne chance.
Merci.
France Inter ?
Oui, France Inter.
Philippe Le Cam, je suis l'organisateur de l'événement là,
pour Carles Lasmans. Bon, ça se passe bien.
C'est super, c'est très fluide. Les candidats sont au taquet, ils sont sous pression.
Mais en fait, c'est réservé aux gens qui travaillent pour la marque que je ne nommerai pas, puisqu'on est dans le service public. Ou c'est ouvert à tout le monde ? Moi, je suis remplaçant de pare-brise, je peux venir.
Non, c'est un tournoi interne en fait. Et là, pour l'instant, on est sur la compétition France. Et le meilleur des 10 techniciens qui sortira ce soir sera qualifié pour la finale monde à Rome au mois de mai, où il y a 30 pays du groupe qui seront représentés.
Ah oui, c'est ça. Mais pourquoi vous ouvrez pas à tous les remplaçants de pare-brise ?
C'est un métier qui est beaucoup plus compliqué que ce qui pourrait paraître. En fait, hein, ça nécessite de l'exercité, un savoir-faire. Il y a une grosse formation, un gros cursus de formation qui est prévu pour tous les techniciens, qui permet d'apprendre chacune des étapes. Par exemple, pour remplacer un pare-brise, c'est 120 étapes chronologiques qu'il faut respecter dans l'ordre, et c'est là-dessus qu'on évalue les techniciens pendant cette compétition. Donc sans formation et en arrivant de l'externe, c'est impossible d'être évalué de la même manière. Mais là, c'est bien, on a l'élite de nos techniciens et c'est très représentatif de la société, donc c'est intéressant.
Bon, je vous laisse parce que l'épreuve a commencé.
Okidoki, un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain. 5, 4, 3, 2, 1, top départ!
Un bureau d'enregistrement des rêves, bonjour.
Bonjour, j'aimerais déposer un très gros rêve, c'est pour le super jackpot Euromillions.
Oui, alors faudra remplir un très gros formulaire.
C'est-à-dire
Le formulaire des très gros rêves. Et vous l'envoyez dans une très grosse enveloppe.
Avec un très gros timbre, hein.
Non, normal, pourquoi?
Elle a pas compris.
Euromillions My Million, venez avec vos rêves. Ce vendredi, super jackpot Euromillions de 100 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez France Inter. Il est encore 16h. Les informations, Aurélie Bambuc.
La crise en Ukraine en discussion à l'Élysée. Le président François Hollande a réuni cet après-midi les chefs de la diplomatie américaine, russe, britannique et allemande. Un rendez-vous en marge d'une réunion internationale sur le Liban. L'américain John Kerry et le russe Sergueï Lavrov ont eu un long entretien, le premier depuis le début de la crise. Dans un communiqué commun, Londres, Washington et Kiev appellent à l'ouverture d'un dialogue direct entre l'Ukraine et la Russie. Le dossier ukrainien sera sur la table de Bruxelles demain. À la veille de ce sommet extraordinaire, la Commission européenne présente un plan d'aide pour le pays, 11 milliards d'euros, une aide qui proviendra du budget de l'Union et des institutions financières européennes. Sur le terrain, en Ukraine, la tension monte, les forces russes ont investi 2 bases de lancement de missiles, des bases situées sur des sites militaires stratégiques en Crimée, à Donetsk, dans le sud-est russophone du pays. Les pro-russes ont été évacués du gouvernement régional, ils occupaient le siège de cette administration depuis lundi. La mise en garde de Bruxelles sur l'économie française, la Commission européenne avertit sur les risques que de non-respect des objectifs de baisse des déficits publics. Elle appelle Paris à poursuivre ses efforts de consolidation budgétaire. Pas de deuxième mandat pour le président du Sénat. Le socialiste Jean-Pierre Bel ne se représentera pas aux élections sénatoriales de septembre prochain. À 62 ans, il abandonne son fauteuil après 3 ans d'exercice. L'élu se justifie dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde. Il invoque un choix personnel très ancien. Jean-Pierre Bel est devenu en 2011 le premier président socialiste du Sénat sous la 5e République. Stupéfaction et colère à l'UMP après la révélation d'un enregistrement d'une réunion à l'Élysée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Des conversations privées enregistrées clandestinement par un ancien conseiller, Patrick Buisson. Son avocat confirme leur authenticité. Nouveau tourment pour le parti d'opposition après l'affaire Copé. Mais ces enregistrements ne sont pas qu'une simple péripétie politicienne pour les socialistes. C'est une atteinte au fonctionnement de l'État. Le président de la République a été mis sous surveillance, déclare Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Le PS qui envisage de demander une commission d'enquête parlementaire sur ces enregistrements. Enfin, nous avons vécu le deuxième hiver le plus chaud depuis 1900. Température supérieure de près de 2 degrés par rapport à la normale. La pluviométrie, quant à elle, est la plus élevée depuis 1959 en Bretagne et dans la région Provence. Alpes-Côte d'Azur, 15 à 20 jours de plus que la normale sur la pointe bretonne. C'est le bilan climatique définitif publié par Météo France.
Mes chers auditeurs,
tous les samedis à 21h,
vous connaissez tous le crochet radiophonique.
On a les moyens de vous faire chanter.
On y va ?
France Inter réinvente le radio crochet.
Ok, je suis prêt.
Avec Vali et Didier Varro.
Cette semaine, retrouvez deux des 14 artistes que vous avez sélectionnés.
Tout le monde aura compris ce soir, je suis vraiment favori.
J'ai même pas peur.
Vous avez voté Blanchard et Gemma. Ils s'affronteront pour la première fois devant le public du studio 106 et le jury.
Voilà, donc là je suis un peu hésitant.
On peut aussi sourire un tout petit peu.
Vous aviez une tête un peu consternée, non ?
Les gars, vous êtes pas foulés.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission,
rendez-vous demain à 18h30 devant la porte B de la Maison de la Radio.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
On a les moyens de vous faire chanter. Le Radio Crochet de France Inter,
ah, ça tourne.
En partenariat avec la SACEM et la FNAC. France Inter,
la voix est libre.
16h04, l'heure de retrouver le Carrefour de l'Odéon avec vous, Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Aurélie Bambuc, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Pour commencer, Julia Fischer. Elle est virtuose sur deux instruments, elle joue aussi bien du violon que du piano, mais enfin son choix s'est porté évidemment vers le violon, je dis évidemment parce qu'elle a une très grande carrière, et elle vient de signer un disque Pablo de Sarasate, donc ce génial virtuose espagnol, qui nous a donné tant de piécettes, des morceaux de divertissement certes, de virtuosité aussi, alors on peut sourire, on peut prendre ça à la légère, mais Julia Fischer qui est si sérieuse dans plein d'autres répertoires, dit que c'est une musique extrêmement importante, qui après tout le sourire, bien sûr, ne nuit absolument pas à l'émotion musicale. Ni même à la réputation, évidemment, de ce noble art. Voici, tiré des danses espagnoles de Sarasate, un zapateado, c'est-à-dire une danse où on claque des talons. We'll be right back. Le premier qui crie olé aura le droit, sera récompensé peut-être, n'allons pas si loin. En tout cas, on a entendu le Zapateado, des danses espagnoles de Pablo de Sarasate, interprété par Julia Fischer au violon avec Milana Czerniawska au piano, un très joli disque DK. Et puis, celui qui nous accompagne cette semaine, c'est le disque Chopin de Nikolaï Louganski qui était avec nous il y a peu et qui a beaucoup progressé en français. On l'a entendu parler vraiment magnifiquement sans interprète alors qu'une dame très compétente était là. Maintenant, il s'est lancé, puis on l'a parfaitement entendu. C'était lundi et on va l'entendre jouer du piano maintenant, ce qui est encore plus important, bien sûr. Je vous propose d'entendre un extrait du deuxième concerto en fa mineur de Frédéric Chopin, le final, Allegro Vivace, et bonne